20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
C'est l'heure du journal du classique avec dans un instant Sol Gabetta pour son nouveau disque sur lequel elle n'est pas seule puisqu'elle partage l'affiche avec Bertrand Chamaillou. Tous deux ont enregistré l'intégrale de la musique pour violoncelle et piano de Mendelssohn. Nous en parlerons et nous écouterons bien sûr quelques extraits de ce disque qui a été par ailleurs trophée Radio Classique de la semaine dernière. Mais avant cela, une nomination, celle de Ève Coquard à la direction générale et artistique de l'Opéra de Clermont-Ferrand. Ève Coquard prendra ses fonctions la semaine prochaine, le 1er mars. Elle succède à Pierre Thirion-Vallée. Elle était depuis le début de la saison chargée de missions artistiques et administratives. Ève Coquard connaît bien le milieu de l'opéra et elle est elle-même chanteuse soprano. Connaissez-vous le festival de printemps de l'université PSL Paris Sciences et Lettres? L'université PSL regroupe plusieurs grands établissements parisiens comme l'ENS, Paris Dauphine ou le Conservatoire supérieur de musique. Elle possède aussi deux chœurs et un orchestre et organise donc un festival dont la 7e édition se tiendra du 12 mars au 4 avril prochain dans différents lieux de la capitale. Un festival que nous présente Johan Fargeau, son directeur artistique.
Alors, il s'agit d'un festival qui fait d'abord, avant tout, rayonner le magnifique patrimoine de l'université PSL à travers toutes ses écoles composantes. Je pense notamment, par exemple, au théâtre du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, qui est un théâtre à l'italienne au cœur de Paris qui est extraordinaire. On y donnera, avec l'orchestre PSL, le double concerto de Brahms. Mais je pense aussi à d'autres joyaux architecturaux comme la salle Cassini de l'Observatoire de Paris ou la chapelle du lycée Louis-le-Grand PSL et bien d'autres écoles qui font la richesse du patrimoine de l'université PSL. Et cet orchestre PSL est l'orchestre du campus de l'université PSL qui réunit toutes les écoles et il y a aussi un chœur. On va donner un programme entièrement consacré à Bach à la chapelle Louis-le-Grand le 16 mars. Et en fait, ce chœur et orchestre sont le noyau musical vif des étudiants musiciens de l'université PSL. C'est très important, en fait, de garder l'espoir sur le fait que la jeunesse continue à fréquenter la musique classique, qu'elle soit d'ailleurs dans le public ou sur scène.
Johan Fargeau, le directeur artistique du Festival de printemps de l'université PSL Paris Sciences et Lettres, qui aura lieu du 12 mars au 4 avril et au cours duquel sera donc joué le double concerto pour violon et violoncelle de Brahms.
Thank you.
Le final du double concerto de Brahms, Isaac Perlman au violon et Rostropovitch au violoncelle avec l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Bernard Haitink.
Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
Invité du journal du classique ce soir, Sol Gabetta, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Sol Gabetta, pour la sortie de votre nouveau disque, sur lequel d'ailleurs vous n'êtes pas seul, puisque vous partagez l'affiche, pourrait-on dire, avec Bertrand Chamaillou. Disque, qu'il faut le rappeler, on vous félicite une nouvelle fois, qui a été trophée Radio Classique la semaine dernière. Il s'agit de votre troisième disque avec Bertrand Chamaillou. Il y avait eu Chopin et Schumann. Et aujourd'hui, ce nouveau disque est consacré à Mendelssohn. Vous avez enregistré l'intégrale de sa musique pour violoncelle et piano, les deux sonates, les variations concertantes, la Saïd Tranquillo et puis la romance sans parole. Alors en fait, c'est un double CD. Il y a deux CD dans ce disque, c'est presque un coffret, puisque, et on va en reparler tout à l'heure, vous avez demandé à quatre compositeurs contemporains de courtes pièces que vous avez commandées à partir justement de romances sans parole. Alors je crois que l'idée de ce disque, d'enregistrer cette intégrale de la musique violoncelle piano de Mendelssohn, est venue de la sonate numéro 2 que vous avez joué souvent avec Bertrand Chamaillou, je crois que 200 fois vous l'avez joué, c'est ça, non?
J'ai pas calculé exactement, mais en tout cas, c'était une des premières sonates qu'on a jouées lors de notre première rencontre, en fait, lors de notre premier concert.
Alors c'était quand ça?
Tous les deux. Bah, ça a dû être, ça fait 2006. Quelque chose comme ça, en tout cas 2005, 2006 à
une
peu près.
Une petite vingtaine d'années, quoi.
Tout à fait, voilà. Bon. Ça fait exactement 18 ans, ouais. Ouais. C'est pas court. Donc c'est vrai qu'à partir de cette sonate-là, on a commencé à explorer un tout petit peu le monde de Mendelssohn, de la musique de chambre. On a fait beaucoup, beaucoup des autres choses. On n'a pas joué que ça. On a fait la musique de chambre un peu, avec des groupes un tout petit peu plus grands. Et après, on s'est retrouvés tout d'un coup. Nous, on aime bien enregistrer des intégrales. Donc, c'est vrai qu'effectivement, surtout dans le répertoire romantique, mais en général, pour violoncelle et piano, vous arrivez vite à un compositeur comme Mendelssohn quand vous voulez enregistrer des intégrales.
C'est évident.
Pour le violoncelle et piano, on n'en a pas tant que...
Le répertoire est assez limité quand même,
exactement.
C'est ça.
Ouais.
Et pourquoi ça d'ailleurs? Vous avez une explication?
Moi, je pense que c'est toujours une question de avec qui et quel genre de relation ils avaient au moment que les compositeurs composaient. Ouais. Soit ils composaient pour quelqu'un, dans ce cas-là, évidemment, la chance d'avoir Félix Mendelssohn, son frère, qui était violoncelliste, dont tous les deux, tout jeunes, jouaient ensemble, je pense que c'est sûrement très motivant d'avoir quelqu'un qui peut jouer tes partitions rapidement déjà à la maison. Donc, ça joue un rôle important. Dans le cas de Chopin, c'était plutôt son grand ami, Franck Homme. Ça dépend, c'est vraiment les relations qui créent ça, non? Moi, je pense que si on revient au temps de Vivaldi, effectivement, le fait d'avoir eu pour lui dans son église toutes ces jeunes filles qui jouaient plein d'instruments à très haut niveau, apparemment il y avait des très bons violoncellistes aussi et des violonistes effectivement.
Oui, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les compositeurs écrivaient effectivement pour des interprètes bien précis. En fait, c'est ça, c'était pas le hasard et ça dépendait effectivement, l'écriture dépendait justement de la capacité des interprètes à jouer les œuvres, c'est ça.
Tout à fait. Je pense qu'en fait c'est assez intéressant de justement prendre ça en compte aujourd'hui.
Oui. Et alors comment vous prenez ça en compte justement?
Je pense qu'on oublie souvent, disons qu'on a plutôt tellement de demandes des compositeurs, et on a la sensation que les pauvres compositeurs sont en train d'attendre à quel moment la loterie va sortir et un interprète jouera sa pièce. Et en fait, quelque part, c'est un peu triste, parce que ça devrait être le contraire. Normalement, ça devrait être nous qui allons toujours vers les compositeurs et demandons des pièces à notre taille, à notre pied, quelque part. Le problème, c'est que, effectivement, je pense que le monde bouge très, très vite. Il y a des compositeurs partout, il y a des interprètes partout. Mais effectivement, il faut se trouver dans le style, dans le goût musical aussi.
Il faut s'adapter, en fait, aussi, c'est ça, non?
Ça dépend les compositeurs. Ouais, il y a certains qui s'adaptent peut-être un peu trop, par exemple, au marché. Mmh. Et quand on s'adapte un peu trop au marché, on perd sa ligne. Mais exactement de la même manière à l'interprète. Moi, ce que j'aime bien dans un compositeur, c'est quand le compositeur a déjà lui-même ou elle-même une certaine ligne musicale, que moi, je puisse un tout petit peu voir, même si l'évolution après d'un compositeur peut tellement évoluer différemment 20 ans plus tard, par exemple, dans le cas de Jörg Wittmann. Moi, j'ai joué à l'époque, il y a aussi 18 ans, 20 ans à peu près, avec lui. Donc, c'est un grand clarinettiste, il faut le dire en plus. Moi, j'ai fait plus de trio, de quintet, des choses comme ça avec lui. Et j'avais joué déjà des pièces de Jörg Wittmann, mais c'est pas du tout le même genre d'écriture qui nous a, par exemple, dédié cette fois-ci.
Alors ça, c'est justement, on en parlera tout à l'heure, un des quatre compositeurs auxquels vous avez commandé ces romans sans paroles, ces miniatures, on va dire, hein, pour violoncelle et piano. On va écouter un premier extrait de votre disque, si vous le voulez bien, Sol Gabetta. C'est le premier mouvement, justement, de cette fameuse sonate numéro 2 pour violon et piano avec Bertrand Chamaillou. Mendelssohn, le premier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano numéro 2, Sol Gabetta et Bertrand Chamaillou. C'est extrait de cette intégrale des œuvres pour violoncelle et piano de Mendelssohn. Vous êtes là pour en parler ce soir sur Radio Classique. Sol Gabetta, qui dit musique de chambre, dit parfaite entente avec le partenaire. Non, ça c'est indispensable, c'est le postulat de départ, ça. Ouais.
Ça devrait l'être.
Ça devrait. Ah, c'est-à-dire, là, ça l'est quand même dans votre cas, non?
Je me dis que c'est vraiment une chance énorme de s'avoir rencontré si jeune, d'avoir poursuivi des chemins, soi-disant un peu différents, parce que moi j'étais à cette époque-là plus en Suisse, en Allemagne, Bertrand était beaucoup plus dans le marché français, mais on était toujours en connexion, on a toujours continué à jouer de la musique de chambre, on s'est toujours vu, on était des très bons copains, mais à part ça, même sur scène, on était tout le temps, régulièrement ensemble. C'est-à-dire qu'on a
18 ans, il faut le rappeler.
C'est beaucoup.
C'est pas mal, oui.
La plupart du temps, des relations comme ça finissent, soit c'est vraiment la grande relation musicale qui fonctionne à des années-lumière, mais je sais pas si c'est le plus souvent. Le plus souvent, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a vraiment un crash. Parce que c'est difficile, des fois, quand on est si souvent ensemble et partout dans des endroits différents, la décision des programmes. Comment conceptuellement se voir au bout de 10 ans, soi-même comme interprète et ensemble comme duo. Ce qui est assez impressionnant, je trouve, dans ce duo, c'est le fait que ce que chaque fois on ressent, nous, de plus en plus, c'est quand on va sur scène, on n'a plus la sensation de devoir faire attention de quelle manière musicalement ou même la personne se sente physiquement. C'est-à-dire qu'il y a une telle confiance que c'est presque... Moi, je sens que Bertrand peut être, je ne sais pas, à ce moment-là, peut-être pas si relaxé, par exemple, c'est juste pour dire quelque chose. Effectivement, c'est drôle parce qu'on n'y parle pas, mais il ressent exactement ce que moi, je suis en train de ressentir. Donc, du coup, il y a une nervosité qui s'est créée sans savoir même pas parler dessus, ni n'ont plus su comment l'autre se sentait. Je pense que ça, c'est la confiance qu'on crée sur scène avec une personne quand on partage tellement du temps ensemble.
Et ça, c'est indispensable pour vous dans la musique de chambre?
Pour moi, je pense que ça, c'est la musique de chambre. Ouais, la plupart de temps, le problème, c'est qu'on mécomprend ce qui pourrait être la musique de chambre dans ce genre d'intimité, d'arriver à un point où deux personnes sont presque une, mais évidemment, sans se perdre dans le caractère de l'autre, étant donné que de toute façon, chacun fait une carrière de soliste. Mais on donne une telle importance à ce duo, ce n'est pas vraiment deux solistes que juste ils se retrouvent pour s'amuser à jouer la musique de chambre ensemble. Pour nous, ce duo, c'est comme un troisième pilier, presque, si on veut. Il y a les deux carrières solistiques, mais ce pilier est très important pour que ça se maintienne vraiment bien, cette structure. Je pense que si on donne cette importance à la musique de chambre, la profondeur du travail est toute une autre que quand on se retrouve juste deux grands artistes. Ça peut marcher très bien, mais c'est pas le même genre de travail. C'est juste deux solistes qui font peut-être une interprétation d'exception pour une fois. Par exemple, dans le cas avec Hélène Grimaud à l'époque, c'était vraiment une situation un peu unique. À ce moment-là, on s'est retrouvés, on a fait ce projet. Mais c'est vrai que c'est pas ma partenaire de musique de chambre. Avec Bertrand, c'est vraiment une relation qui
dure et qui est sur la durée.
Qui se développe sur la durée.
Et est-ce que justement, on le disait il y a 18 ans à peu près, vous avez joué pour la première fois cette sonate numéro 2, est-ce que votre jeu a évolué en 18 ans?
Oui, je trouve que oui, beaucoup aussi grâce à l'influence, je pense, de certaines personnes, de certains artistes, des fois des chefs d'orchestre, des fois des pianistes. Moi, j'aime bien aller écouter les concerts et évidemment, tout le monde est influençable. Mais
et
surtout,
toujours, vous continuez, c'est ce que vous avez dit un jour, effectivement, que vous vous êtes formé comme ça aussi en allant écouter les autres et vous continuez à.
Mais je pense que si on
ne
va pas
écouter
les autres, c'est difficile qu'on reste alerte aux changements musicaux qui existent dans le monde parce que l'évolution musicale, elle existe aussi si chacun trouve un nouveau chemin pour y découvrir une nouvelle façon d'interprétation. En fait, c'est justement ça. Je pense que l'interprétation devient justement intéressante. Aller écouter le concerto de Dvorak avec une nouvelle personne ou un nouveau jeune qui vient, si l'interprétation elle est plutôt personnelle. Sinon, ça devient beaucoup moins intéressant. Plutôt, je reste à la maison calmement avec un CD. J'ai moins de bruit.
Certes.
Et je suis au calme. Ouais. Ça veut dire que le concert live, il y a quelque chose d'exceptionnel si l'interprète devient, avec cette pièce, presque un moment unique. Ça veut dire, j'essaye que chaque interprétation, même si chaque fois c'est un peu différent, que pour moi, ça soit un moment unique. C'est pas parce que j'ai joué 100 fois le concerto d'Elgar que la prochaine interprétation, ça sera plus facile. Au contraire, elle va être encore plus difficile parce qu'il y aura plus d'exigences.
Alors, on va écouter Solgabetta, un deuxième extrait, et là, on va aller sur le second CD. On le disait tout à l'heure, hein, vous avez commandé à quatre compositeurs de courtes pièces à partir de la romance sans parole. Et on va écouter Mots disparus de Wolfgang Riem.
Thank you.
mot disparu de Wolfgang Riem, qui est un compositeur né en 1952, voilà absolument, et auquel vous avez commandé avec trois autres compositeurs. Donc ces courtes pièces, quel était le but de cette démarche? Il y avait une contrainte, c'était faire des pièces courtes, mais ça c'est la définition des romances sans parole. Mais bien quel sûr. Était le but de cette démarche?
Je pense que ça m'a attiré beaucoup le fait juste me demander pourquoi justement pour ces instruments, le violoncelle, le piano, Félix Mendelssohn nous a composé juste une petite pièce comme ça, et pas 49 comme pour le piano.
C'est ça, voilà.
Mais en fait, tout a une raison. Et la raison, si on regarde bien sur la partition, ce Lied ohne Worte, ces chansons sans paroles, sont été dédiées à une violoncelliste qui est décédée très jeune, Lise Christiani, qui était un peu une muse à l'époque à Leipzig, pour plein des compositeurs. Elle a beaucoup joué là-bas, elle venait elle-même. À cette époque-là, il ne faut pas oublier une femme, jeune femme, qui venait, qui organisait elle-même ses propres concerts et jouait quand même avec des gens de premier niveau dans son ensemble. Elle trouvait les musiciens qui étaient sur place, elle les appelait, elle les appelait pas, mais en tout cas, elle allait les chercher elle-même et l'organisait tout elle-même. C'est quand même impressionnant ce que ça a dû, je pense, créer en Félix Mendelssohn pour composer ce Lied ohne Worte qui, en fait, n'a été pas joué par elle, n'a été pas non plus joué tous les deux ensemble. Ils sont jamais rencontrés vraiment. C'est lui qui a écouté un concert de Lise Christiani. Donc je pense que c'est une espèce de peut-être de quelque chose pas très réel probablement. Et moi, ce qui m'intéressait tout d'un coup, c'était comment retrouver, pourquoi pas plus des compositeurs ont continué à écrire des chansons sans paroles dans ces presque 200 ans qui sont passés. Donc je me suis juste posé la question si on n'en avait pas des autres. Évidemment, en arrivant à Heinz Rolliger, en parlant avec lui, il m'a dit, je n'ai composé plein pour violon et piano. Et du coup, il était pas très prêt au début de nous faire encore.
Mais finalement, il a accepté.
Il nous a arrangé, évidemment. Ouais. Il y a deux qui sont arrangés du violon et piano. Ouais. Il y a un autre qui l'a un tout petit peu presque écrit à nouveau. Je pense qu'il était plus attiré par Schumann, lui, que par Mendelssohn. Mais il a quand même accepté et ses pièces sont exceptionnelles. Lui, ce qui était très intéressant.
Est-ce que je vous interromps? Est-ce que les quatre compositeurs ont assisté à l'enregistrement?
Alors, avec chacun d'entre eux, on a travaillé d'une manière ou d'une autre ensemble. Et pendant l'enregistrement, il y a certains, Wolfgang Riem était quand même à l'hôpital, on n'a pas pu le téléphoner. Mais tous les autres, c'était rigolo, mais c'était quand même génial qu'aujourd'hui ça soit possible. On était tous avec FaceTime, ils ont tous été à notre
génial,
enregistrement.
J'imagine, oui, c'est ça, que le compositeur soit là pour la création.
Mais ça, c'était vraiment juste pour l'enregistrement. Avant, par exemple, avec Wolfgang Riem, on a travaillé en personne. Avec Heinz Rolliger. Wolfgang Riem était vraiment à l'hôpital beaucoup de temps, donc c'était compliqué. Mais avec Heinz Rolliger, il est venu avant un concert au KKL à Lucerne avec Bertrand. Il a travaillé 2 heures avec nous. Et surtout, ce qui est beau, je trouve, dans sa démarche, il a vraiment, lui, une recherche du son, déjà avec son hautbois lui-même, mais même avec les pièces, il y a tellement peu de notes à jouer. C'est un peu comme du Bévern. C'est un peu comme du Debussy, il dirait lui. Ne joue pas ma musique comme si c'était du Heinz Rolliger. Joue ma musique comme si c'était du Debussy.
Et ça, c'est précieux, les indications, évidemment.
Absolument.
Bien sûr, ouais. On va déjà bientôt se quitter. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez satisfaite de la prise de son de ce disque. Ça, c'est important. C'est quelque chose à Radio Classique de la prise de son. Ça a été enregistré à la Philharmonie de Paris. C'est un élément important aussi, ça, pour un interprète, la façon dont son travail est capté, enregistré, restitué.
C'est très important, car ça dépend beaucoup le goût de la personne. Ça veut dire que l'ingénieur du son, c'est un troisième interprète.
Ça va faire plaisir à Aurélie Messionnier chez nous.
Alors. Voilà, et tout d'un coup, je pense que si une personne ne capte pas vraiment quel genre de personnalité est derrière ce son, souvent ce qui se passe, c'est que ou on obéit un tout petit peu pour donner un, comme un cadeau, vous voyez, comme un paquet cadeau en fait, pour donner un certain charme là-dessus. Mais le problème, c'est que certaines musiques et surtout certains caractères d'interprètes ne demandent pas ça. Et donc, on va dans des directions contraires. Et des fois, c'est tout le contraire. Ils essayent d'avoir un son assez rude pour que ça parle, mais du coup, c'est pas beau à écouter. Donc, cette espèce de balance à trouver est assez difficile. Et dans ce cas-là, donc avec Joël, que c'est un ingénieur du son suisse, que j'avais enregistré pas mal des concerts dans mon festival, donc pendant 18 ans, il m'a vécu, disons, dans plein de concerts différents de musique de chambre, grande, petite, avec orchestre. Donc, c'est vrai que l'idéal du son, il sait ce que je cherche. Et c'est souvent très très difficile aussi, piano et violoncelle, il faut
absolument
le dire.
Ouais.
C'est pas la même chose avec deux cordes qu'un instrument percussif avec un instrument à cordes.
Sol Gabetta, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Je vous remercie d'être venu ici au Journal du Classique.
Merci.
À Radio Classique. On va évidemment se quitter en musique. On va écouter la Side Tranquillo de Mendelssohn avec donc Bertrand Chamaillou et cet extrait de ce disque Trophée Radio Classique. Il faut le rappeler, l'intégrale donc des pièces pour violoncelle et piano de Mendelssohn. Merci.
Merci beaucoup.
Sol Gabetta et Bertrand Chamaillou dans la Side Tranquillo de Mendelssohn, extrait de l'intégrale de la musique pour violoncelle et piano de Mendelssohn, paru chez Sony et qui était Trophée Radio Classique la semaine dernière. Sol Gabetta était l'invité du Journal du Classique ce soir. Une interview à retrouver sur le site radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 20h avec Victorien Van Oosten qui vient d'être nommé directeur musical de l'Opéra de Toulon. Votre soirée se poursuit en compagnie de Francis Drezel. À demain, bonne soirée avec Radio Classique.